בברכה, בוקר טוב, שבוע טוב לכולם, בשורות טובות, ישועות ונחמות. בעזרת השם, est-ce que j'ai le partage du...
Normalement, vous avez le droit de partager.
Alors, attends, sur le screen, non, je n'ai pas le droit. Ah, si. Voilà, parfait. Parfait. Be'ezrat Hashem, nous allons continuer notre développement dès que le temps est arrivé.
Alors, Rav, je profite des trois minutes qui nous restent là, avant le début pour vous poser une question qu'on n'a pas eu le temps de poser, que j'ai pas eu le temps de poser au Rav Cherki. Il nous a parlé d'un lien particulier entre la Malchut et la Bina.
Oui.
Est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça veut dire?
Tout simplement, la Bina représente la matrice première de la Malchut, c'est-à-dire la source même, qu'on appelle dans le langage courant le Olam Haba, le monde des valeurs, le monde des idéaux. Si vous voulez, dans les lettres du nom d'Hachem, dans le tétragramme, c'est la première lettre He. Et la Malchut représente la réalisation de cette Bina, de cette matrice. C'est le deuxième. Pour faire le lien entre ces deux valeurs, qui sont deux côtés féminins, il y a la lettre Vav, et donc on appelle en hébreu Vav Hachibur, la lettre du lien, qui fait en fait le lien entre ces deux forces féminines que la Torah appelle, qui s'habillent dans deux femmes, dans deux épouses, Léa et Rachel. Cléa représente la Bina, le monde d'en haut, des idéaux. Rachel représente le monde d'en bas, la Malchut. Et Yaakov se marie avec ces deux femmes pour indiquer le rôle du peuple juif, c'est de traduire les valeurs du Olam Haba dans le Olam Hazeh pour vivre le Olam Hazeh avec les valeurs du Olam Haba. J'espère que j'étais clair.
Très clair, merci beaucoup. Donc Léa, c'est le Zeir Anpin.
Tout à fait. Le Vav, c'est le Zeir Anpin. Bina, Malchut et Zeir Anpin au milieu.
Rav, moi aussi, j'ai une petite question, si vous me permettez.
Oui, avec plaisir.
C'est par rapport, en fait, j'ai pas compris aussi quelque chose par rapport au cours avec le Rav Cherki. Il expliquait que le Nahash était lié à la pulsion de l'acte conjugal. Et dans un autre cours, j'avais entendu que c'était le Nahash représentait l'intellect. Et donc, j'ai pas compris ici, en fait, comment on peut conjuguer ces deux définitions.
Ben, c'est la même chose, en fait. C'est quand on rentre quelque chose qui est de l'ordre du plaisir humain ou de la pulsion humaine avec son intellect dans les valeurs qui sont censées être des valeurs de vie. Donc, on mélange un petit peu ce qu'on appelle le côté cartésien au côté de la vie. C'est en fait la première faute du premier homme, d'avoir voulu consommer l'arbre de la connaissance au lieu de consommer l'arbre de la vie. Et d'ailleurs, nous fautons tous dans ce degré-là. C'est la même chose, c'est comme un acte sexuel quelque part. C'est que nous préférons notre logique à la logique divine. On a du mal à lâcher prise par rapport à la logique divine et on met toujours notre propre intellect en place. Et les conclusions, malheureusement, sont des conclusions humaines, alors que la Torah nous donne en fait une objectivité que l'homme ne peut pas avoir lui seul. C'est l'objectivité de la prophétie, de ce qu'on appelle en fait la Torah. Donc ça va ensemble.
Merci. Voilà. Merci beaucoup, Rav. Il est 11h15, vous pouvez démarrer. Et okay. Comme à notre habitude, on laisse les questions, on en restera un quart d'heure pour les questions à la fin et on coupe les micros en attendant.
Bezot Hashem. Alors, Bezot Hashem, bonjour à tous. Chodesh Tov aussi, même si on est déjà avancé. Nous sommes le 6 du mois de Kislev. Et le mois de Kislev est là pour nous aider à faire venir justement cette lumière du monde supérieur dans le monde dans lequel nous sommes. C'est le sens même de la Chanoukia, de la Menorah, de toutes les lumières que nous allons allumer à la fin du mois, Be'ezrat Hashem. Et donc, il y a ici un message qui est un message continuelle en fait dans le judaïsme, puisque le peuple d'Israël est le traducteur des valeurs divines sur terre, et il a été créé pour cela. Et donc, quiconque faute à ce programme sort quelque part de cette matrice et s'éloigne du but même pour lequel il a été créé. Alors, étant donné que nous parlons beaucoup de Séphirot, j'ai cru important, j'ai pensé qu'il est important de traduire ces Séphirot dans la notion de l'homme, dans les langages humains. Et nous avons commencé la fois dernière par la Séphira de Keter. Nous avons expliqué que la Séphira de Keter, c'était dans l'homme la capacité d'abord et avant tout de gagner en humilité. Rappelez-vous que l'humilité, c'est celle qui nous permet d'avoir cette sphère. Pourquoi? Parce que dans l'humilité, en fait, on peut conjuguer deux inverses, deux contradictions. Et donc, plus nous sommes élevés, plus nous pouvons conjuguer des contradictions au sein même de notre vie. Plus nous sommes bas au niveau du niveau de notre vie, plus les contradictions nous dérangent. Akadosh Baruch Hu, par définition, peut contenir en lui des contradictions que nous, les hommes, ne comprenons pas. Et donc, nous disons en hébreu, Yoshev Beseter Elyon. Il est installé, lui, Akadosh Baruch Hu, dans une contradiction permanente. Et donc c'est un niveau que l'homme n'arrive pas à concevoir, puisque nous sommes dans un monde où c'est bien ou c'est mal. On n'arrive pas à comprendre et à conjuguer le mal du bien, ou le bien qui est à l'intérieur du mal, et comment tout devient bien, c'est ce qui va se passer à la fin des temps, selon le Ramchal, Rabbi Moshe. Chaim Lutzato alav shalom, que tout ce que nous avions défini comme étant le mal, c'est en réalité, n'est qu'en réalité que du bien. Donc nous avons commencé donc cette séphirah de Keter, et nous avons dit que rien ne devrait nous empêcher d'avancer, parce que la sphère de Keter, elle a un but, c'est justement de donner, de partager. Et de la même manière que l'Éternel nourrit les plus grands animaux comme les plus petits, on avait parlé des lentes, les œufs des poux, eh bien de la même manière, nous devons donner du respect à toutes les créatures de ce monde, même les créatures qui nous paraissent complètement viles et inutiles, cela n'existe pas. Alors parfois nous devons retirer de la lumière de certains êtres. Et parfois, tout simplement, éliminer ces êtres-là qui sont néfastes, qui sont négatifs, qui ne sont là que pour les éliminer. Rappelez-vous que l'Égypte, c'est cette notion qui nous a donné la matrice de toute cette compréhension que nous sommes entrés en Égypte pour retirer des étincelles, à tel point que lorsqu'on quitte l'Égypte, elle reste vide et donc elle n'a plus d'existence, n'a plus de raison d'être. Et donc, nous avons terminé le degré du Keter. On rappelle que la notion en hébreu de Keter veut dire entouré, ce qui veut dire que je prends en compte toutes les possibilités. Les Keter en hébreu veut dire embrasser, littéralement, dans le sens le plus large du terme, c'est-à-dire prendre en considération toutes les notions, même si elles sont contradictoires. Donc le Keter, c'est comme la couronne qui est même au-dessus du roi, et donc elle est posée sur la tête du roi. Deuxième degré, nous sommes maintenant dans l'explication de ce degré de Keter dans la pensée. Comment est-ce qu'on peut traduire ce Keter? Cette notion de Keter dans la pensée humaine. Machashavato tedame le machshevet haKeter. Donc le Rav nous dit que nous devons faire en sorte de ressembler à la pensée qui se trouve dans Keter. Je vous rappelle que le mot Adam vient du mot Adama. Excusez-moi, Adama, qui se lit ou bien la terre, ou bien Adamé, je ressemble. Et en réalité, les kabbalistes nous disent qu'il ne faut pas être seulement Adama, parce que nous sommes venus de la terre, mais nous devons être Adamé l'Élyon, ressembler aux valeurs supérieures. C'est comme ça que l'on se rapproche des valeurs divines. Comment est-ce que je peux me rapprocher de Dieu? C'est l'infini. Bien, je me rapproche de ses vertus, je me rapproche de ses valeurs. Si Dieu est bon, à partir du moment où je me conduis selon la bonté, eh bien, on va dire de moi que je suis proche des valeurs de l'Éternel. Et si, chas v'shalom, il y a distance entre les valeurs de l'homme et celles de l'éternité, eh bien, on va dire qu'il s'est éloigné des valeurs de l'infini. Donc, je reprends le texte, Machashavatot et damel le marchevet aketer. Il faut faire en sorte que nos pensées soient toujours ressemblantes à la pensée du Keter. De la même manière que la sagesse divine n'arrête pas, puisque Dieu ne change pas. Donc son existence est une existence continuelle et ses actions sont des actions continuelles. Ne pensez surtout pas que Dieu a créé le monde et qu'il s'est arrêté. Il renouvelle son monde à chaque instant. La parole divine est maintenue dans l'espace de l'univers pour que les choses en question soient encore. Eh bien, de la même manière, sa pensée bonne, celle qui génère la vie, celle qui génère le bien, est continuelle. Elle ne s'arrête jamais. Elle est en permanence en action. Et donc de la même manière, toi aussi, tu devrais entrer dans ton cerveau des pensées qui sont de cet ordre-là, c'est-à-dire chaque instant de ta vie doit être consacré à la bonification de ce monde, à commencer par ta propre bonification. J'ai envie d'évoluer, j'ai envie de continuer mon élaboration, à l'inverse de Essav, que les sages considèrent comme Assoui. Il est fait, il est terminé. Qu'est-ce que veut dire ce sens-là, qu'il est fait, qu'il est terminé? En réalité, il n'a pas d'espoir quant à l'arrangement de ce monde. Pour lui, le monde est foutu. Personne, ni même Akadosh Baruch Hu, ne peut corriger ce monde, ne peut parfaire ce monde. C'est comme si le monde qui a été créé est devenu plus fort que le Créateur lui-même et que ce monde est voué à la destruction totale. C'est pour ça que certains pensent à l'Apocalypse, alors que le peuple d'Israël pense qu'à la bonification, ce qu'on appelle l'avènement messianique et l'arrangement de ce monde de plus en plus. Et donc, c'est l'esprit que nous devons avoir pour avoir cette sagesse du Keter. Donc, la pensée initiale doit être toujours dirigée vers le bien. Donc, de faire en sorte de ne pas rentrer aucunement des pensées mauvaises. Pensées mauvaises, ce sont des pensées négatives qui en fait abdiquent et qui disent, qui se disent que le monde est foutu, qu'il est raté, qu'il n'y a rien à faire de toute façon dans ce monde, on vit, on meurt, il n'y a rien qui évolue. Tout ça, c'est interdit de faire entrer. Il faut faire très attention parce que lorsqu'on en entre, on fait entrer des idées telles que celles-ci, eh bien, on se fragilise soi-même. Chas v'shalom. Donc il faut être dans la miséricorde parfaite, tout le temps penser comment faire du bien et annuler tout ce qui est din, rigueur et difficulté, c'est-à-dire être souple et générateur de lumière et de bonté. Donc l'homme doit faire en sorte que sa pensée soit libre tout le temps. Mikol davar mechoar de toute laideur, kemo shehi sot chokhma ora keduma. Comme la chokhma ne génère que la beauté, la bonté. Même lorsque la Torah veut parler de quelque chose de mauvais, elle n'emploie pas dans son dire, dans son explication des choses, elle ne va pas dire le mauvais, elle va dire le pas bon. D'accord? C'est-à-dire que nous, on a une tendance à considérer le mal comme le mal, alors que la Torah, lorsqu'elle veut exprimer quelque chose, elle dit le pas bien. C'est-à-dire qu'elle est toujours dans une vision de lumière et non pas dans une vision de négativité. Velo yechesar shum sod Torah. Le Rav préconise pour avoir cette capacité de ressembler donc à cette valeur supérieure du Keter, de ne jamais manquer de secret de la Torah. Rappelez-vous bien que le secret veut dire l'ensemble, l'entité, en hébreu, l'histodède, se rassembler. Et donc, ceux qui veulent avoir cette notion de bien doivent avoir en tête une vision globale des situations et non pas des visions fractales. Les visions fractales poussent l'homme au pessimisme parce qu'il ne voit que des détails disparates qui n'ont aucun lien les uns avec les autres. La Torah du Sod nous donne une vision complète, large. Elle embrasse le tout et c'est pourquoi elle empêche les mauvaises pensées de pénétrer. Et donc l'homme ne doit pas se rendre disponible à des pensées qui sont autres que cette lumière divine. Et pour arriver à cela, il faut tout le temps se mettre face à la grandeur de l'infini, béni soit-il. Là aussi, faites attention, le Rav ne dit pas qu'il faut se voir minable par rapport à la lumière. Il dit qu'il faut voir la grandeur de la lumière. Comprenez la différence. Il y a des gens qui se disent, mais que sommes-nous? On n'est rien, cet univers est tellement grand qu'on est ridicule, un grain de poussière. Ce n'est pas le langage de la Torah. La Torah te dit, regarde la grandeur de l'infini, mais ne t'occupe pas de ta petitesse. Tu n'es pas si petit que ce que tu crois. La preuve, c'est que tu es capable de transformer le monde par tes paroles, par tes prières, par tes pensées et par tes actions. Et donc nous devons nous affairer aussi, pas seulement avoir de bonnes pensées positives, mais des actes positifs qui sont tout le temps dans le sens de bonifier, de rajouter de la vie. Car bonifier, c'est rajouter de la vie. D'où est-ce que je le sais? Dans les versets de la Torah, quand est-ce que l'Éternel, quand il crée le monde, à chaque fois il conclut, Vayar Elohim ki tov. Dieu voit que c'est bien. Quand est-ce qu'il dit que c'est bien? C'est quoi la notion de bien? Eh bien, il vient de rajouter quelque chose, une création, un élément de vie. De là, nous pouvons comprendre que chaque fois que tu rajoutes de la vie, ne serait-ce que si tu donnes de la vie à quelqu'un d'autre, que tu le réjouis, que tu lui rapportes un petit peu plus de simcha, un petit peu plus de remplissage de son être, eh bien, plus tu fais ce travail-là, plus tu fais le bien. C'est ça, faire le bien. Je résume donc, faire le bien, c'est rajouter de la vie. Donc, fais attention. Voilà, je te donne la règle. Ne fait rentrer aucune force étrangère dans ta pensée. Zar, étranger, vous inversez les lettres, ça devient rase le secret. Eh bien, c'est ou le secret ou bien étranger. Si c'est étranger, ce n'est pas ce que tu es venu faire, donc jette-le. Si tu ne jettes pas l'étranger qui est en toi, la force étrangère, la pensée étrangère, l'énergie étrangère qui est en toi, eh bien, tu sers cet étranger. C'est-à-dire, tu le remplaces. Tu remplaces Dieu par cet étranger. Donc, si tu sers cet étranger qui t'a pénétré, ça s'appelle de la avoda zara. Zar au féminin, zara. Donc, fais attention de servir que la lumière de l'éternel et non pas tes pensées étrangères qui viennent prendre la place de Dieu. Tout à l'heure, je vous ai dit un exemple, ta pensée humaine, elle a une tendance à remplacer la pensée divine. C'est-à-dire notre logique humaine, on a l'impression qu'elle est plus intelligente que la pensée divine. Et donc lorsque la Torah te dit quelque chose, toi tu dis oui, ça c'est Dieu qui l'a dit, mais moi je pense que ça, il faut faire très attention parce qu'en réalité, tu fais rentrer une force étrangère à ce que Dieu te demande. Rappelez-vous Nadav et Avihu qui sont morts parce qu'ils ont apporté un feu étranger. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont apporté un feu étranger? Un feu, c'est un élan de l'être. Mais si ce n'est pas l'élan que Dieu te demande, eh bien ça s'appelle un élan étranger à la demande divine. Auquel cas, ça devient de la avodah zara. Afilu machashava betela. Donc fais attention de ne pas te laisser porter par des pensée vile et vide qui n'apporte rien en fait, qui sont stériles. Parce qu'il n'y a rien de stérile réellement, si ça ne va pas vers le bien, malheureusement, ça va dans l'autre sens. Rajbi, et ça c'était la grandeur de Rabbi Shimon Bar Yochai, Alav Shalom, et Chavirav et ses élèves. C'est-à-dire qu'ils avaient en fait, une pensée qui était une pensée divine et dans un corps d'homme. Ils étaient divins dans ce monde. Verak sheifrid Rabbi Yossi machashavto kama ochicho harashbi kaniskar beparashat Terouma. Et regarde combien Rabbi Shimon Bar Yochai a été dur avec Rabbi Yossi lorsque celui-ci a séparé sa pensée à un moment donné de la pensée divine. Donc il le réprimande, il lui dit, tu es en train de laisser un espace vide en toi-même et dans lequel va forcément rentrer une force étrangère. La règle est simple, si vous laissez un vide en vous, eh bien va rentrer là-bas quelque chose d'autre. Donc il faut sans arrêt être dans le plein. Essayer de se remplir de cette lumière divine et de sentir, même de visualiser dans votre esprit et votre corps, cette plénitude divine en fermant les yeux et en imaginant que nous sommes remplis de divin, entourés de divin. Et là, nous avons une protection pour ne pas que pénètrent en nous des idées néfastes. Nous descendons d'un niveau, nous sommes maintenant sur le front de l'homme, Metzach. Metzach est une élévation, est un niveau très élevé. Remarquez que le mot Metzach, si j'inverse les lettres, ça devient Tzemach, c'est le nom du Mashiach. Ça veut dire que dans le mot Metzach, le front, se cache le messianisme d'Israël. Et dans la Kabbalah, on nous dit que la lumière qui vient du front est une lumière très, très, très élevée. Rappelez-vous que le Kohen Gadol portait sur son front un écriteau, une plaque en or où il était inscrit Kodesh Lachem. C'est-à-dire que mon front devient l'ustensile de réception du Saint béni soit-il. Donc le front est quelque chose de très important. C'est d'ailleurs la réussite de l'homme se cache dans son front. La valeur numérique du front, Metzach, c'est la même valeur numérique que Hatzlacha, la réussite. Et c'est d'ailleurs ce que vous devez voir dans le vin pendant la Havdalah. Motsaï Shabbat, vous regardez des gens qui regardent le vin et qui rigolent. Ce ne sont pas des imbéciles. Ils regardent leur front et ils pensent au mot Hatzlacha comme le mot Metzach. Et donc, ça donne une réussite à l'homme Je vous dévoile ici un secret, ne dites à personne. Et donc, il y a ici un degré de plus, le Metzach. Donc, Mitzro shelo yebo koshi klal. Prends garde à ne pas mettre de difficultés dans ton front. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne rentre pas des valeurs qui ne sont pas la volonté première, initiale, primordiale. Et là, voilà, il y a tamid Metzach haratzon. Il faut que tu fasses en sorte que ton Metzach, que ton front, soit toujours le front de la volonté divine. Le front est un écran. Le Hari Akadosh regardait cet écran chez l'homme et savait lire sur cet écran quelle était la volonté de l'homme, comme un écran d'ordinateur. Et donc notre écran change. Vous comprenez bien que votre ordinateur, c'est comme votre écran d'ordinateur, il change au fur et à mesure que les messages arrivent. Eh bien, c'est la même chose au niveau du front humain. Le front humain change constamment. Et donc, il y a des informations qui circulent comme si vous étiez face à un écran d'informations sans arrêt. Ça a des écritures qui passent, qui passent, qui passent, qui passent. Et ceux qui savent lire dans le front, c'est une sagesse enseignée par le Zohar, eh bien, peuvent savoir où se cachent les pensées de l'homme. Sheirtze et Akol. Et là, quelque chose d'incroyable. Nous dit le Rav, il faut que l'homme veuille tout. Alors que on nous enseigne d'être dans la petitesse, dans la médiocrité, les kabbalistes disent non, il faut que tu veuilles le tout. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu a créé le tout. Donc si tu veux le tout, c'est que tu es assez grand pour partager ce tout. Donc enlevez de votre esprit l'idée d'être petit et mettez-vous dans l'esprit de vouloir plus parce que vous devez et vous voulez partager plus. Je veux étudier plus profondément la Torah parce que je veux partager plus de Torah, pas pour mon bien personnel. Et donc je veux plus parce que je veux donner plus. Afilushin tzabne adam koasim. Et donc, chez Yeratze et Takol, il faut vouloir le tout, mais en même temps, vous avez ici une combinaison. Le mot Yeratze, vouloir, peut se lire en hébreu Yeratze, consoler. Ça veut dire que vouloir, c'est aussi consoler, donc apporter le bien à l'autre. Et donc, tu dois être capable de consoler toute la colère qui t'entoure. Afilu sheimtzabne adam koasim, même si en face de toi se trouve une personne en colère, irtse veitakenam. Il faut que tu veuilles et donc que tu gagnes en possibilité de les corriger. Beratzon tov asherbo. Comment je fais ça? Bien, puisque je suis rempli de bonne volonté, eh bien, je fais passer de cette bonne volonté à la personne qui est en colère face à moi. C'est ce qu'on appelle un tikkun. Un tikkun, c'est mettre de la lumière dans un vase, dans un ustensile de réception. Et donc, je remplis la personne par une lumière de bonté, pour justement calmer, éteindre cette colère qui est en lui. Kainyan Metzach Haratzon, donc on appelle ça dans la Kabbalah le front de la volonté, Metzach Haratzon, dans des textes plus secrets, on parle du Metzach d'un monde très élevé. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce monde, il s'appelle Adam Kadmon. Adam Kadmon, c'est bien avant le monde de Hatzilut, le premier monde de l'émanation dont tout le monde parle. Eh bien, avant ce monde-là, il y a un autre monde qui s'appelle Adam Kadmon. C'est un degré très élevé. Et là-bas se cache un front par lequel, en fait, le tikkun de tout le messianisme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, va apparaître à la fin des temps. C'est-à-dire que le roi Mashiach que nous attendons tous, activement, eh bien, c'est la révélation de cette lumière qui vient du front de ce monde très élevé qu'on appelle Adam Kadmon. Shehu tadir rotze umeratze, hagvurot umetaknan. Quelle est la qualité intrinsèque de cet étage? C'est que cette volonté est permanente et elle est tout le temps à calmer les rigueurs et à les corriger. C'est-à-dire que, imaginez-vous un niveau où la rigueur est éteinte à chaque instant par une certaine bonté qui calme tout. Tu arrives devant ce front, même si tu es comme un feu dévorant, eh bien tu t'éteins, tu te calmes, il y a quelque chose qui t'a rassuré. Mais parfois il y a des gens qui n'arrivent pas à endormir des bébés, et plus ils prennent le bébé, plus le bébé hurle. Et tu donnes ce bébé à quelqu'un, et en quelques secondes, le bébé se calme. Pourquoi? Il y a dans cette personne une certaine force intérieure qui va calmer en fait l'énergie de peur, d'angoisse de ce bébé. Juste par la voix, par le timbre de la voix, par la respiration, par l'être de la personne en question. Et donc c'est ce que nous devons être. Afu irtseh ha'gibourim ha'mitgaber. Et lui, cet homme-là, doit être meratzet hagiborim, c'est-à-dire calmer ceux qui sont toujours tout feu, tout flamme. Comment est-ce qu'il fait ça? Parce qu'ils sont toujours en colère. Eh bien, il va refroidir, en fait, par ce front, par ce metzach, parce que olam ha'tikkun, il va refroidir cette colère. Vezeh. Beratzon tov ou bechokhma gedola, sheishtatef sham. C'est-à-dire, il doit mettre chez l'autre, avoir la kavana de passer à l'autre, même pendant qu'il lui parle, même au téléphone. Okay? Quelque chose qui va le calmer, le rassurer. La semaine dernière, j'étais dans un état un petit peu plus difficile et j'ai eu la possibilité de parler à quelqu'un qui nous regarde maintenant sur l'écran, et juste avec la parole, la personne a réussi à me rassurer, à me calmer, et donc je remercie cette personne, parce qu'il y a en fait entre nous, c'est ce qu'on doit faire, il y a des moments où on est un petit peu plus fragile, des moments où on est un petit peu plus fort, et donc sans arrêt, il faut faire passer cette lumière de front à front. Alors merci beaucoup. Et donc, il faut faire très attention de ne pas casser, détruire, détériorer. Il faut être donc comme la volonté supérieure d'Akadosh Baruch Hu, qui émane de sa sagesse divine magnifique, qui nous dépasse complètement. Et elle se trouve dans ce front, dans cet étage qui s'appelle le front. Alors si vous vous posez des questions, pourquoi nous donnons des symboles qui sont apparents comme chez l'homme, apparentés à l'homme? Bien tout simplement parce que le but, c'est d'arriver à l'homme. Et donc même dans les mondes supérieurs, il y a comme une ressemblance, une résonance de ce que va être l'homme en bas. Donc pour ne pas parler dans l'air, nous sommes obligés d'utiliser des degrés que nous connaissons dans notre vie. Donc si je regarde mon corps, je peux savoir certains degrés selon le corps que j'ai, et je dois comprendre que dans les mondes supérieurs se trouvent les mêmes forces, sans l'image, mais avec les mêmes énergies. Donc dans un monde supérieur au nôtre, dans un monde intérieur profond, il y a ce qu'on appelle un metzach. Donc ce metzach-là vient et révèle une sagesse, la sagesse divine. Qu'est-ce que c'est que cette sagesse divine? Nous disons de la sagesse divine, le roi Salomon nous enseigne que la sagesse, c'est la vie. Chochma techayé. Ça veut dire que ceux qui vivent plus, en effet, il y en a qui vivent plus et il y en a qui vivent moins. Tout le monde vit, mais plus ou moins. Même les morts. Donc ça s'appelle un degré, imaginez-vous un curseur d'intensité de vie. Bien. Vous êtes plus de 100 à nous regarder. Imaginez-vous qu'aucun d'entre vous ne vit, à l'instant où je suis en train de vous parler, avec la même intensité. Il y a des gens qui sont plus dans l'angoisse, il y a des gens qui sont plus dans la simcha, il y a des gens qui sont plus dans la peur, il y a des gens qui sont plus dans... Peu importe, eh bien, vous avez des intensités différentes de vie. Et la sagesse, c'est celle qui va intensifier la vie dans tout. C'est pour ça que Dieu, nous avons dit tout à l'heure que lorsqu'il crée le monde, qu'est-ce qu'il va utiliser en fait comme attribut? La sagesse. Et c'est pour ça que nous disons Kulam bechokhma asita. Akadosh Baruch Hu, quand tu as créé le monde, tu as utilisé la chokhma. Et cette chokhma, il nous l'a placée à l'intérieur de nous, elle se trouve justement dans ce front, à l'intérieur de ce front. Bien entendu, là je parle d'une sagesse nifla'a, qui nous dépasse, c'est la sagesse divine, mais malgré tout, il a placé en nous une résonance de cette sagesse-là. Donc, Ben Mitzra, en araméen, le front, Metzach, quelle est la valeur numérique de Metzach? Même 40, ça dit 90, donc 130 et 8, 138. 138, qu'est-ce que vous pouvez écrire en hébreu? 100, c'est Kouf, 30, c'est Lamed et 8, c'est Chet. Ça s'appelle Kalach. Vous avez entendu parler des Kalach Pitrei Chochma? Que le Ramchal a écrit un livre qui s'appelle Kalach Pitrei Chochma, les 138 ouvertures de la sagesse. Et en fait, ce n'est pas par hasard qu'il a appelé son livre le Klach. Et nous devons atteindre 138 degrés de sagesse. OK? Ce qu'on appelle Chelek, quand vous changez les lettres. Ki Chelek Adonai Amo. Ki lekach tov natati lachem, Torati al ta'azovu. Vous voyez que je change les lettres, mais c'est toujours le même sens. V'misham meratzeh hakol. Et si tu as cette force en toi, tu arrives à réduire la colère et à calmer et à bonifier le tout. Vezeyem mituv midotav. Et ça vient de la bonté de tes mesures. C'est-à-dire, tu as fait en sorte de faire que tes mesures soient bonnes. Qu'est-ce que c'est des bonnes mesures? C'est, vous faites à manger et que vous ne respectez pas le matkon, c'est-à-dire, j'ai oublié comment on dit en français, ce qui vous permet de faire à manger, les contenants, les contenus, les ingrédients, chacun a une mesure, vous avez des recettes, eh bien, si vous ne faites pas attention aux mesures, eh bien, ça va sortir en fait chaque fois différent. Un véritable cuisinier, un chef, qu'est-ce qu'il a de différent de quelqu'un qui cuisine? C'est qu'il est régulier dans ce qu'il fait. Tu ne peux pas rentrer au restaurant une semaine, dire à quelqu'un j'ai mangé un super poisson, machin, et 2 semaines après, tu rentres, tu manges le même poisson, ça n'a aucun goût. Pas possible. Ça, ce n'est pas un restaurant. Tu ne peux pas ouvrir un restaurant. Parce que tu ne sais pas respecter les mesures. Mais c'est la même chose au niveau du judaïsme. Le judaïsme préconise de faire très attention aux mesures et de leur donner une midatiyut qui soit dans le tov. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ça veut dire que si tu dépasses la mesure en croyant faire mieux, tu fais mal. Par exemple, en hébreu, shtemesre. Et si je veux faire ashteresre, je suis descendu. C'est-à-dire, je voulais faire mieux que 12, je suis redescendu à 11. Ça veut dire que kol hamosif gorea. Si tu veux faire plus, eh bien, le plus, c'est l'ennemi du bien. Et le moins, c'est pareil. Ça veut dire ne fais pas moins, ne fais pas plus. Fais exactement la mesure. Chez Imidotav Kashot, et si tes midot sont dures, Mitzadechadim Bnei Adam, c'est-à-dire que chaque fois que tu parles à quelqu'un d'autre, tu es très dur avec lui, tu emploies toute la dureté de tes vertus par rapport à l'autre. Chez Imidotav Kashot Mitzad Acherim Bnei Adam, Loitratsumimen. Donc en réalité, les hommes, les femmes, les êtres qui sont autour de toi ne seront jamais rassurés et calmés par ta présence. Alors que aujourd'hui, nous savons que dans tous les domaines, il n'y a plus véritablement de métier. Dans chaque métier, il y a de plus en plus de coaching. Ça veut dire un médecin aujourd'hui doit être rassurant, pas seulement connaissant les lois de la médecine. Un rave aujourd'hui ne doit pas être seulement un savant, mais doit être aussi quelqu'un qui peut rassurer ses élèves. Et dans tous les domaines aujourd'hui, ce degré-là est très important. Et donc, on se rattache à un rave, pas parce qu'il a des connaissances seulement, mais parce qu'il a une manière de faire passer ses connaissances. Ce qu'on appelle les shamesh et tarav pour voir ses midot. Onam, kasher yeh metiv midot. Donc, lorsque tu fais attention à garder toujours, à préserver la mesure de tes vertus, alors, effectivement, il y a raison de faire attention et les hommes qui vont être autour de toi, les êtres qui vont être autour de toi seront plus rassurés, calmés et seront plus heureux. On descend de niveau. Les oreilles. Quel rapport maintenant? Nous sommes dans le corps humain, vous voyez. Nous sommes maintenant dans les oreilles. Chez Yuoznav, notot tamid lishmoa hatov. Il faut que tes oreilles soient toujours ouvertes à l'écoute du bien. C'est-à-dire, fais très attention de déceler le bien, même lorsque quelqu'un te parle et tu dis beaucoup d'informations, toi, c'est comme s'il y avait un clapet qui n'entend que le bien qui a été dit. Quand Sarah parle à Abraham, Abraham entend une information. Mais Akadosh Baruch Hu demande à Abraham, écoute à l'intérieur de l'information de Sarah, elle te dit un seul message. Je te demande d'écouter ce message. Pas ce qu'elle t'a dit. En hébreu, kol asher tomar, al tishma ba'amira, tishma bekola. C'est-à-dire, n'écoute pas ce qu'elle a dit avec des paroles, kol asher tomar lecha Sarah. Normalement, le pasouk aurait dû dire, shma amirata. Non, kol asher tomar ata al Tishma et ha'amira, tishma et ha'kol. Tu dois être capable d'entendre le message intérieur subliminal qui se cache entre les mots qui ont été prononcés. C'est d'ailleurs comme ça qu'on étudie la Torah. Akadosh Baruch Hu nous donne un verset. Et si je ne m'attache qu'au verset, donc je répète comme un touki, comme un perroquet, le verset, mais je n'entends pas le message subliminal qui se cache à l'intérieur. Ça, c'est un manque au niveau de l'intelligence de l'étude. Un grand chacham, il a la capacité de rentrer à l'intérieur des mots, des phrases, des lettres, et de comprendre ce que toi, tu n'as pas entendu. Et regardez combien de mots et de versets on a entendus toute notre vie, et jamais on fait attention, ne serait-ce que ce que je viens de vous dire, Kolacher Tomar, Shma Bekola. Ça te paraît tout simple, tu traduis en français, écoute ce qu'elle te dit. Non, tu ne dois pas écouter ce qu'elle te dit. Tu dois écouter quelque chose qui était entre, qu'on appelle Kol, et non plus Amira. Kol ha-omer davar, beshem omro. Regardez bien, il y a une gymnastique ici. Tu es omer davar. C'est plus une amira, ça devient un dibour. Au nom de quelqu'un qui l'a omro. Vous voyez que je ne vais pas rentrer maintenant dans les détails, mais je vous complique un petit peu l'histoire, tout simplement pour vous montrer que votre traduction en français est complètement erronée. Alors en français, c'est bidon. Et tout celui qui répète ce que son maître il a dit, ben il amène la Géoula au monde. Bravo. C'est pas du tout ce qui est dit. D'ailleurs, il faut comprendre, les sages savent utiliser les mots précis, et la Torah utilise des mots précis. Akadosh Baruch Hu ne peut pas se tromper en hébreu. Et donc, fais attention avec tes oreilles. Rappelez-vous que le mot Ozen, quelle est la valeur numérique de Ozen? 58. Nachon, Nun, c'est 50. Zayin, 7. Aleph, 1. 58. Qu'est-ce que vous connaissez comme nom en hébreu 58? Nun, Chet, Noach. Donc, qu'est-ce que c'est que Noach? Noach, c'est celui qui se met dans un état agréable parce qu'il a un équilibre. Ozen vient du mot meouzan, équilibré. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en hébreu équilibré? Eh bien, c'est être entre deux oreilles. Meouzan, mais ozen le ozen. C'est-à-dire quelqu'un qui est équilibré, c'est quelqu'un qui a le même poids d'écoute, d'entendement entre les deux oreilles. Il ne donne pas plus d'écoute à l'oreille gauche qu'à l'oreille droite. Il est meouzan, mais ozen le ozen. Et donc ça, c'est le côté agréable. Omnam shem achav o hameguné. Donc cet homme-là, il doit être capable, cette femme, d'entendre un faux bruit. Un bruit qui court. Oh hameguné, ou pire encore, du lachonara sur une telle ou telle personne. Et ce qui est très difficile, c'est que dès qu'on entend, c'est fini. Il y a une tâche. Même si tu veux voir la personne, tu la vois 10 minutes après, le fait qu'on t'ait dit quelque chose sur cette personne-là, tu la vois déjà, il y a un problème déjà, il y a quelque chose chez toi qui gêne. C'est terrible. Ça veut dire qu'on a tué quelqu'un juste parce que quelqu'un d'autre nous a dit quelque chose. Même si tu ne l'as pas tué complètement, tu as déjà enlevé 10%, 20%, 30% de la valeur de cette personne, c'est déjà un meurtre. Loi kansu bahen klal. C'est pour ça le Rav nous dit, fais attention. Si tu veux rentrer cette sagesse en toi, d'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais comment ça s'appelle cette sagesse maintenant, qui est au niveau de l'oreille? Pas chokhma. Bina. Bina, c'est les oreilles. D'accord? Donc les chachamim nous disent que lehavin, ça vient des oreilles. C'est pour ça, lorsque tu entends quelque chose, tu dis j'entends. dans le sens animavine. Je comprends. Shamaati. Donc, l'oreille, nous disent les Chachamim, c'est ce qu'on appelle la Bina. Vous rappelez que la Bina s'appelle aussi Olam Haba. Vous rappelez? Le niveau de Bina s'appelle Olam Haba. Il est où le Olam Haba? Dans le Olam Hazeh. Seulement, il est caché. Dans le Olam Hazeh. Par exemple, un fœtus dans le ventre de maman, il est dans le Olam Haba, et la maman, elle est dans le Olam Hazeh. Donc, on ne va pas compter les jours du fœtus dans le ventre de maman, tant qu'il ne sort pas. Donc, lui, il est dans le Olam Haba. Donc, il ressemble à quoi dans le ventre de sa maman? À une oreille. Okay. Regardez l'oreille, c'est le fœtus. Donc notre oreille, c'est la position fœtale qui se trouve à l'intérieur du ventre et donc qui fait référence au Olam Haba. Donc fais très attention, de la même manière que quand tu étais dans le ventre de ta maman, tu n'entendais rien d'autre que quoi? Que la Torah enseignée par un ange. De la même manière, garde tes oreilles de ne pas entendre des choses négatives. Que derech shesod ha'azana eliona en shum tzaakat din velo pgam lashon hara nichnas ba. De la même manière que dans le monde intérieur, que dans le monde supérieur, que dans l'écoute profonde, il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de din, il n'y a pas de hurlement et il n'y a pas de lachonara qui peut entrer à l'intérieur. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu n'écoute pas le lachonara. D'ailleurs, il faut faire très attention de ne pas parler du lachonara de ce qu'Akadosh Baruch Hu aime. Par exemple, l'Assemblée d'Israël. On n'a pas le droit de parler du lashon hara sur le peuple d'Israël, c'est très grave. Kach lo ya'azin ela hatovot. Et donc toi aussi, tu vas faire en sorte. Excusez-moi. Kach lo ya'azin ela hatovot ve'hadvarim ha'mo'ilim. Donc tu dois écouter que le bien et les choses qui rajoutent du bien, qui font du bien, mo'il, to'elet. Ush'ar devarim ha'magbirim ka'as, et tout ce qui rajoute de la colère, lo ya'azin alehem klal. Donc n'écoute pas des choses qui te mettent en colère. Ça ne sert à rien d'écouter des choses qui te font de la peine, qui te mettent en colère, qui t'énervent, qui te rentrent à l'intérieur, en fait. Des éléments étrangers à ta structure, à ta sérénité. Que Moshe Anachash ve Dibouro ou le Shono Eino Nichnas Sham. De la même manière que le serpent, donc l'intellectuel bas niveau, ve Dibouro, ni le langage du serpent, ni la parole du serpent. Alors en français, j'ai dit deux fois la même chose, mais là, vous avez un dibour et les chonos. Quelle est la différence? En français, on va dire son langage et son langage. Non. La chonne, c'est langage, parce que ça vient du mot la langue. Mais dibour, ça vient du mot de l'extérieur. Da, bar. Bar veut dire dehors. Donc, il y a dibour et il y a la chonne. Dibour, c'est extérieur. La chonne, c'est intérieur. Tu n'as pas le droit d'avoir donc ni du lachonara, ni du dibourra. Vous êtes avec moi? Eino nichnas sham, kach lo ikanes elav shum davar vehaynu lo tisa shema shav. Et donc, il faut faire très attention de ne pas être le porteur, donc l'ustensile de réception, de mauvaises paroles, de mauvaises idées, de mauvais entendements, de mauvais bruit qui court. Kol sheken sh'ar advarim amegunim, pire encore, des choses négatives complètement, bas et grossiers. klal. Fasse attention de ne pas les faire entrer dans ses oreilles. Comprenez bien que les oreilles, c'est directement lié au cerveau. Okay? Donc ne donne pas d'écoute, si ce n'est qu'à de bonnes choses dans ta vie. Est-ce que vous avez des questions? Allô, allô?
Comme
Voilà.
d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main et on va pouvoir faire un peu de CDR. Merci beaucoup, Arav. Un cours d'actualité
Allô,
toujours.
bonjour.
Et
Alors.
question de David.
Okay.
Bonjour, Rav. Concernant le Lachonara, si par exemple on a l'habitude de faire un peu de hitbodedou, de raconter sa journée, de partager ses préoccupations avec Hachem à un certain moment, se plaindre de quelqu'un qui nous a fait du mal, est-ce que c'est considéré comme du Lachonara vers Hachem? Est-ce qu'il écoute ça? Il n'écoute pas ça? Quelle est la portée de ce genre de parole?
Très bonne question. Quand tu parles à Kadosh Baruch Hu et que tu parles seul d'Akadosh Baruch Hu, tu n'as pas le droit de prononcer le nom de la personne en question. Tu dois dire d'une manière générale, Kol Mishe Garam Lira, tous ceux qui m'ont fait du mal, que j'ai ressenti du mal à cause d'eux, que ce soit par volonté ou par involonté, je te demande à Kadosh Baruch Hu de me faire 1, 2, 3, 4, 5. Mais ce n'est pas la peine de dire, ouais, tu sais. Plony, fils de Plonit, il m'a fait telle et telle chose. D'accord? Donc, ce n'est pas la peine de mettre les noms.
D'accord. Merci.
Question de
Oui.
Monsieur Ben Saïd, vous êtes en mute?
On peut poser une question?
Oui, présente HM.
Alors, je voudrais
Allez-y.
savoir, est-ce que ce mois-ci, on va rentrer dans Hanouka? À Hanouka, on a un problème avec les Grecs, avec Yafet. Moi, j'ai vu dans un livre de généalogique aussi de Yafet, ils sortent un tas de personnes qui sont liées avec un petit peu la période que l'on vit en ce moment, c'est-à-dire que de Yafet, il sort Gamtiras, je crois, qui représente l'Iran, Ashkenaz, qui représente donc les Francs, donc on va dire les tribus allemandes de l'Ouest de l'Europe, donc ce côté un petit peu aryen. Et il y a deux fêtes qui sont extérieures, qui sont Hanouka, donc où on a un problème avec les Grecs, et donc Pourim, on a un problème avec les Perses, donc qui sont Tiras, qui sortent toutes de Yafet. Est-ce que par rapport à ça, vous pourriez un petit peu nous expliquer, parce qu'on voit un petit peu Cham, il y a Cham, il y a Yafet et Yachem, on voit qui est Cham un petit peu avec la sortie d'Égypte et Paro et tout ça. Mais Yafet, ça reste, en tout cas pour moi, de mon côté, beaucoup plus cette lignée de Yafet, d'où sortent les Aryens, d'où sortent les Perses, d'où sortent tous ces gens-là, et qui sont bénis d'une certaine manière d'Hachem, je n'arrive pas à les visualiser. Merci beaucoup, si c'est possible.
Dans la fin de la paracha qu'on vient de lire, de Toldot, on dit que Esav est allé prendre la fille d'Ishmaël, donc Esav, l'Occident, s'est marié avec la fille d'Ishmaël, l'une des filles d'Ishmaël qui s'appelait la maladie, Mahalat. Ça veut dire qu'en réalité, si je traduis textuellement au premier degré, ça ne se fait pas très, très bien, mais en fait, l'Europe se marie avec une maladie qu'elle fait rentrer en elle. Quelque part, ça veut dire que les nations du monde, que ce soit l'Occident et Ishmaël, ont un mariage entre elles, et c'est en fait la dernière époque du dernier exil qu'on appelle Édom et Ishmaël, ce qui équivaut aux deux jambes. Donc à chaque fois que vous fêtez une fête, que ce soit Hanouka ou Purim, même si l'ennemi en question est la Grèce, ce n'est pas proprement dit le grec. C'est la mentalité qui est sortie de cette notion-là, qui peut exister aujourd'hui chez Ishmaël, chez Esav et chez n'importe qui. Et donc il faut bien comprendre qu'on n'a pas affaire à une guerre contre la Grèce. On ne va pas aller en Grèce. pour tuer des Grecs, c'est ceux qui ont pris en eux quelque chose de cette notion de Grèce, ceux qui ont pris en eux quelque chose de l'Iran, ceux qui ont pris en eux quelque chose de tous ces degrés-là. Et aujourd'hui, tout s'est mélangé, donc il faut faire très attention et rester fidèle à l'idée première d'être vigilant par rapport à tous ces ennemis.
Alors, il y a
Faites
beaucoup
attention,
de
mais
questions. S'il vous
on voit
plaît,
quand
un
même
peu
qu'il
de.
y a
S'il vous
fait
plaît.
différence. C'est pas Shem, c'est pas Ham. Shem et Dom, c'est Shem d'une certaine manière, c'est quand même Shem. Alors qu'il y a fait, ça représente quelque chose.
Yafet
Il est
va dans
béni.
l'histoire est capable de se lier à l'Iran et à la Russie.
Alors, il y a beaucoup de questions. S'il vous plaît, on va essayer de garder les questions qui sont en lien avec le cours et on va demander de poser des questions courtes pour que chacun puisse poser ses questions et qu'on puisse surtout écouter les réponses du Rav. Monsieur Ben Saïd.
Oui, bonjour. C'est pas vraiment une question. C'était juste tout à fait au début une réflexion que je trouvais amusante, mais peut-être pas pour
Alors,
tout le
peut-être qu'on
monde.
peut la laisser pour la fin, monsieur Ben Saïd.
Oh, il y en a pour 30 secondes. Le Rav a parlé du vide dans lequel peut s'immiscer quelque chose. Alors, en français, c'est génial parce que ça donne immiscer. De immiscer, on peut glisser à initier. Et d'initier, on peut glisser à imiter. Autrement dit, c'est le chemin vers Avodazara.
Bien
C'est
fait.
tout.
Bien
Ah,
fait.
merci
Bravo.
beaucoup. Question de
Bonjour,
Simra.
Rav Yoel, bonjour à toutes. Je voudrais vous demander s'il y a un degré entre les différents sens, c'est-à-dire l'ouïe, l'odorat, etc. Je sais déjà que ça existe, mais je vous pose cette question par rapport à l'oreille. Parce que la profession de foi de Ham Israël, la profession de foi de Ham Israël, c'est Shema Israël. Donc ça se fait avec l'oreille. Shema Israël. Deuxièmement, dans la loi du talion, quand l'oreille est endommagée, on ne donne pas l'équivalent de l'oreille, on donne l'équivalent du corps entier, parce que dans le corps, il y a le izun, donc l'équilibre. Alors je voulais savoir s'il y avait une hiérarchie, parce que Shema Israël, c'est très très important, c'est les ondes, c'est l'écoute, c'est la propagation des ondes dans le monde, puisque. Et voilà, je voulais vous demander s'il y a une hiérarchie, puisque l'odorat, c'est le Mashiach, il va nous sentir. L'odorat, le nez, il n'a jamais fauté, d'après ce que
Merci.
je
Razak.
dis. Et
En
je
fait,
voulais.
votre question est une question qui est très, très englobante. Peut-être qu'il faudrait consacrer un cours entier pour développer tout ça, pour ne pas vous répondre sur un pied. Mais effectivement, il y a des degrés différents. Il y en a même qui placent l'oreille, donc l'ouïe, avant même la vision. Et donc, selon les degrés, il faut savoir quand est-ce que la vision précède à l'ouïe, quand est-ce que l'ouïe précède à la vision. Effectivement, tout le judaïsme et l'homme d'une manière générale, c'est quelqu'un qui est capable d'entendre. Et donc, le peuple d'Israël est lié au schéma. Mais je pense qu'il faudrait consacrer un cours pour développer tous ces sens-là. Et Be'ezrat Hashem, c'est une très bonne idée.
Avec question de Dany.
Bonjour Yoël.
Alors?
Notre peuple, ces derniers mois, s'est beaucoup divisé et on a malgré nous entendu et vu les choses qui nous ont séparés. Et là, tu parles donc de ne pas entendre. Et qu'est-ce qu'on peut faire donc pour faire la machine arrière et pour réparer tout ça? Puisque
J'ai
ça, le
compris la
mal a
question.
été fait, entre guillemets.
J'ai compris la question. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas d'accord les uns avec les autres que nous sommes séparés. C'est ce qu'on essaye de nous faire croire, alors qu'il n'en est rien. Je peux ne pas être d'accord avec certaines idées, mais ne pas me séparer de mon frère ou de ma sœur. C'est seulement les idées qui ne sont pas les mêmes. Donc, le peuple d'Israël ne veut pas que tout le monde pense la même chose. Si un sage dans la Gemara dit X et l'autre sage dit Y, on va dire du lashon hara de celui qui a dit X? Non. De la même manière, je dois écouter ce qui est dit de l'autre côté, mais ne pas arriver à de la haine. C'est tout. Ça, c'est l'interdiction. C'est pas de dire que l'autre pense comme ça. Ça, je le sais. Moi-même, je le dis. Je sais que quelqu'un de gauche va dire telle et telle chose, quelqu'un de droite va dire telle et telle chose, mais ce n'est pas pour autant que je manifeste de la haine pour l'autre. Je sais qu'il complète quelque chose en moi que je n'ai pas eu la possibilité de voir, de la même manière que moi, je complète chez lui quelque chose qu'il n'a pas pu voir. Donc, il faut faire très attention à écouter les différences qui sont bénéfiques et ne pas se séparer. Ça, c'est, chas v'shalom, l'inverse et la difficulté.
Question
j'aime mon frère, même si je suis contre ses idées.
Question de Daniel, d'abord.
Bonjour.
Shalom.
Bonjour, vous m'entendez?
Oui, on vous entend.
Très bien. Et salut à Tov, Déborah, et je crois que c'est également, ce que vous avez annoncé il y a quelques semaines, cette complication, enfin, grave. Voici ma question sur un shiur que vous nous aviez enseigné concernant la neshama, l'âme, quand elle descend dans le corps, elle n'est ni mâle ni femelle. Et ensuite, donc, quand elle rentre dans un corps, elle se divise, et si la partie qui rentre dans un corps mâle, donc là, elle a un statut masculin. Et
l'autre, je m'en attends, maman, c'est caché. Caché. J'entends pas très bien.
Est-ce que Daniel, vous pouvez écrire votre question, parce qu'on vous entend pas très bien.
Écrivez votre question, je vous répondrai à part Be'ezrat Hashem. D'accord, parce que le son est très très mauvais. Je suis désolé, excusez-moi.
Question de Sophie. Sophie, si vous pouvez...
Oui, bonjour. Shalom. Est-ce que vous m'entendez?
Oui.
Ok. Bonjour, Rav, et bonjour tout le monde. Si j'ai bien entendu, Metzach, le front, vous avez fait le rapprochement avec Mashiach.
D'accord.
Alors, ma question, Tzemach. Et Mashiach, ou j'ai mal compris en fait? Est-ce qu'il y a un rapport avec Mashiach?
Et Tzemach, c'est le nom du Mashiach.
Ah, d'accord.
Et Tzemach David Avdecha Mehera Tatzmiach. Ça veut dire que le Mashiach s'appelle la plante. Tzemach, Tzomer. Elle sort de la terre. Voilà. C'est l'un des noms du Mashiach, on l'appelle Tzemach.
Ok, merci beaucoup. Merci.
Et dernière question de Eliaou. Eliaou, si vous pouvez allumer votre micro.
Oui, Yoel, c'est Khani de Kfar.
Shalom, 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 Khani.
Alors, je voudrais revenir au passage de Ozen, donc le passage que tu as cité maintenant. Lorsque l'on dit écouter son cœur, est-ce qu'on utilise aussi cette même partie du corps au zen, est-ce qu'on l'utilise aussi? Et quel est le conduit qui permet d'écouter son cœur? Parce que l'autre conduit, c'est celui qui s'ouvre et qui se ferme, qui a un clapet qui fait laisser rentrer à l'intérieur ou qui laisse à l'extérieur un certain nombre de choses. Mais quand on dit écouter son cœur, quelle est la mida ou quelle est la structure qui est concernée?
On ne parle pas de Léha Azin, on parle de Lishmoa cette fois-ci. Donc, Velibo Yavin, Veshama Velibo Yavin, Veshav Verafalo. On dit que lorsque le cœur est capable d'entendre dans le mot Shema cette fois-ci, ce que la parole a à dire, ça ne vient pas seulement de l'oreille. C'est l'oreille qui entend le sens profond de l'être et qui fait passer ça au cœur. Eh bien, on va placer la bina. J'ai placé tout à l'heure la bina dans l'oreille. Oui. Eh bien, grâce à ta question, on peut comprendre que la bina, selon le Zohar, se trouve dans le cœur. C'est-à-dire que dans le cœur, nous avons des oreilles. Le cœur peut entendre. On entend avec son cœur.
Très bien.
Est-ce que vous avez le temps pour une dernière question, Rav?
Oui.
Alors, Batfila Omrim, Elohi Yaakov, et Gambe Torah, Daïn, Ifaim, Mshichim, et Shem Yaakov, Lamrot, Shekibel, Shem Chadash, Israël, Lama, Lomrim, Elohi Israël, Aïm, Zibigil, Shadayin, Achim, Ninsem, Bagalout, וגם הברכה של יצחק, כל כל יעקב, הידי מידי עשיו, זה ישראל, נכון?
Alors, les deux noms que Yaakov a sont des noms qui vont lui servir. Si on avait annulé complètement le nom de Yaakov pour ne garder que le mot Israël, tous les Juifs qui vivent en exil et tous les exils auraient disparu. Il n'y aurait plus de peuple du tout d'enfants d'Israël en exil. Yaakov, c'est la capacité à laisser pour l'instant certains de nos frères en dehors d'Israël et de subir les exils. Seulement, il faut savoir lorsqu'il faut devenir ou redevenir Israël. Donc, il faut monter en terre d'Israël. Les exils s'appellent Yaakov. C'est-à-dire que le judaïsme en exil est un judaïsme qui n'a pas, à qui il manque en fait, ce que Israël a. Qu'est-ce que Israël a que Yaakov n'a pas? La capacité à se battre et à vaincre. C'est pourquoi lorsqu'il reçoit le nom Israël, c'est parce qu'il a été capable de se battre qui s'arrita, im Elohim ve im Anashim. C'est-à-dire dès qu'Israël a une armée souverain sur sa terre, il s'appelle Israël. En dehors, il est encore Yaakov, et c'est pour ça que lorsque Yaakov apparaît dans la Torah, il est rajouté à côté Bemarot Alayla dans une vision nocturne, c'est-à-dire qu'il vit dans la nuit. Il n'est pas encore au grand jour, à la lumière. Israël, c'est la lumière.
Et pourquoi dans ce cas-là, on prie Elohé Yaakov et pas Elohé Israël?
Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, ve Elohé Yaakov. On ne prie pas Yaakov, on prie le Dieu de Yaakov. C'est pas Yaakov, c'est Elohé Yaakov.
Et pourquoi pas Elohé Israël?
Parce que le Elohé Yaakov, c'est le même que Elohé Israël. C'est seulement au niveau du dévoilement qu'il y a deux. Mais l'infini béni soit-il qui est au-dessus de Yaakov ou au-dessus d'Israël, c'est le même. C'est lui qui a un cli différent. Lorsqu'il s'appelle Yaakov, il est exilé. Lorsqu'il s'appelle Israël, il est dans la Géoula.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Shavua tov à tout le monde.
Vous recevrez les enregistrements
merci beaucoup.
À la fin de la journée. Bezrat Hashem.
Merci beaucoup.
D'accord. S'il y a d'autres questions, vous pouvez les envoyer en privé. On les transférera au Rav Bezrat Hashem.